Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Minutes des Fiertés, l'émission flash de Esprit Occitanie à thème LGBT et féministe. Aujourd'hui et en 20 minutes, nous nous intéresserons au Festival des Images Homo qui honore sa 16e édition du 27 janvier au 5 février à Toulouse. Des Images Homo est un festival de cinéma LGBT fondé en 2007 par l'association Arc-en-Ciel. Aujourd'hui géré par l'association Diam, il a pour objectif de questionner le genre, les orientations sexuelles à travers des productions LGBT. Au programme, documentaires, longs métrages de fiction, expositions, concerts ou conférences, Anne-Catherine Mesure, la présidente du festival, est aujourd'hui notre invitée. Nous finirons enfin cette émission par un peu d'actualité féministe avec le dernier rapport sur les sexismes en France. Bonjour Anne-Catherine Mesure, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors au-delà de la programmation de votre festival, j'aimerais aborder avec vous la question de la nécessité de ce genre d'événement culturel pour la communauté LGBT aujourd'hui. Alors j'aimerais d'abord vous demander, pour entrer dans le sujet, ce qui vous a attiré, vous, en tant que présidente dans cette association de ce festival.
Ah, ce qui m'a attiré comme simple bénévole au départ, parce que je n'ai pas démarré présidente. C'est simple, pour moi déjà il y a une vraie passion avec le cinéma. J'étais déjà bénévole dans d'autres festivals de cinéma toulousains comme Ciné Latino depuis 2013 et Ciné España. Et puis étant moi-même LGBT, il y a un moment effectivement en 2017 où j'ai pensé rejoindre l'équipe de Diam qui était encore à cette époque-là en 2017. C'était la dernière année où il y avait Laure et Jacques qui étaient les deux fondateurs de ce festival. Donc j'ai pu les connaître et apprendre avec eux. Et puis ensuite il a fallu prendre la relève avec d'autres. Et maintenant, on en est à la 16e édition.
C'était une manière pour vous de rallier ces deux parts de vos vies, en quelque sorte.
Oui. L'entrée par le cinéma, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, la culture. Et après, la visibilité LGBT dans la culture qui est nécessaire. Et puis, finalement, au fur et à mesure, j'ai pu constater qu'en étant membre de cette équipe, j'ai pu aussi évoluer dans ma réflexion. Apprendre des choses, déconstruire et rencontrer plein de monde. Donc du coup, j'ai trouvé ça hyper pertinent et passionnant et c'est pour ça que j'y suis encore.
Alors en termes de programmation, vous vous occupez de la sélection donc ?
Oui.
Comment ça se passe ? Comment vous choisissez ?
Alors ça se passe que déjà il faut faire une recherche. Donc il faut aller voir dans d'autres festivals francophones, étrangers ou français ce qui passe. Et il y a aussi ce qu'on reçoit, évidemment. Il y a des œuvres qui nous sont proposées spontanément. Et puis ensuite, il faut visionner. Donc le visionnage commence à partir du mois de juin. Et à partir de septembre, il faut commencer à avoir une vision un petit peu de ce qu'on va garder. Et ça va s'affiner jusqu'à fin octobre. Et à partir de fin octobre, en principe, la programmation, elle est quasiment faite. Et là, il faut partir sur la rédaction du programme qui est un lourd travail d'un mois. Et la programmation, c'est simple, il y a des impératifs comme rester LGBT, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une diversité interne et ne pas suivre forcément le cheminement commercial qui favoriserait la thématique gay sur les autres. Et puis aussi essayer d'intéresser toute génération, toute tendance et donc du coup aller aussi sur des hors-pistes, des sujets plus tabous, plus difficiles ou moins facilement trouvables en tout cas.
Et quel genre de sujet moins facilement trouvable ?
Par exemple le documentaire Huellas, qui est un documentaire colombien qu'on a repéré dans un festival espagnol. Et qu'on a traduit et sous-titré nous-mêmes et qui aborde les violences conjugales dans les couples de femmes. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore pu voir au cinéma jusqu'à maintenant. Et en plus, c'est des témoignages de militantes et elles ont un regard intéressant qui est, quand on est militante soi-même, féministe, comment on fait quand notre vie privée, notre vie intime ne correspond pas à notre militantisme. Voilà. Ou quand on voit une autre militante que l'on côtoie, être dans son intimité, subir ou faire subir de la violence. Du coup, c'est intéressant de voir comment on reste humain, hein, donc on peut avoir forcément des défaillances, mais comment on peut être en quête de cohérence par moment entre nos idées et nos actions. Et donc ça aborde plein de choses comme ça. C'est un documentaire d'une heure, mais qui est hyper dense et qui dit beaucoup de choses.
Oui, c'est un sujet qui émerge tout juste. Je vous propose qu'on s'intéresse à une projection qui a eu lieu hier soir, celle du court-métrage Dancing Queer, un documentaire montrant la nécessité d'espaces safe où la diversité peut s'exprimer librement et dans ce cas par la danse. Donc Esprit Occitanie a couvert la projection en compagnie de ses deux réalisatrices, Cléo Miquel Delon et Lucie Cabrera. Elles nous parlent de l'importance d'avoir des moments où la communauté LGBT se retrouve.
Je pense que c'est très important d'avoir des espaces safe, puisque en fait quand on est queer, on est amené plus facilement à subir des choses qu'on n'a pas envie de subir dans les espaces publics, soit la rue. On peut plus facilement être agressé, être harcelé, nous faire des remarques, etc. Et du coup, l'importance d'avoir des espaces loin de ça, en fait, c'est juste de, un, pouvoir être nous-mêmes, et deux, pouvoir être ensemble. Et ça fait du bien, en fait. Je pense que c'est nécessaire au lâcher prise. C'est pour ça aussi qu'on avait envie de parler de la danse et du corps. C'est que souvent, dans les espaces qui ne sont pas queer, le corps est contraint, il est regardé, il est soumis au regard des gens alors qu'on n'a rien demandé. Et ces espaces-là, et dans ces espaces-là, qui sont queer et safe, du coup, c'est pas le cas. Donc c'est un moment, des espaces où le corps peut se relâcher. C'est juste une réaction normale à une population qui subit des discriminations en tout genre. Et c'est un réflexe de survie, en fait, très instinctif au départ, quoi. Et du coup, je dirais que bah, juste, ça les regarde pas, en fait. Eux, ils vivent pas ça, donc pourquoi ils donnent leur avis sur ça? Nous, on a besoin de ces espaces, on les crée et c'est tout, je crois.
Voilà, donc on vient d'entendre les deux réalisatrices du court-métrage Dancing Queer. Donc vous, Anne-Catherine, est-ce que vous pensez que c'est essentiel pour la communauté LGBT de se retrouver entre elles, entre ses membres, lors d'événements, de réunions, etc.
Alors, oui, mais en même temps, le Festival Diam n'est pas... il est ouvert aussi à la partie hétéro, hein. On n'avance pas seul, on avance dans une démocratie, on avance, il faut quand même être une majorité pour faire changer les lois. Donc il n'est pas question de se ghettoiser, de se séparer du reste de la population. Au contraire, nous, notre challenge, qui n'est pas gagné, hein, loin de là, ce serait que les hétéros nous considèrent aussi comme un festival de cinéma de qualité et qu'ils s'autorisent à venir. Et pour l'instant, dans la partie toulousaine, le public est très largement LGBT. C'est dans la partie régionale où on a un peu plus, c'est l'inverse, on a plus finalement d'hétéros qui viennent voir les films parce que c'est une offre culturelle, surtout dans les départements plus ruraux. Donc oui, c'est nécessaire de se retrouver parce que bah, y a un moment donné, on se sent moins jugé, plus libre, et puis on sait, hein, qu'une partie du public LGBT toulousain nous attend toute l'année avec nos œuvres et qui peuvent nous faire confiance parce qu'effectivement on sélectionne des œuvres qui sont intéressantes, qui ne vont pas nuire à l'image des LGBT et qui au contraire vont amener des discussions. Mais on le redit, hein, on souhaite aussi que les hétéros s'y investissent, viennent voir et écoutent justement les échanges, y participent pour petit à petit changer les mentalités. Hein, parce que si on est toujours à part, ça sera difficile finalement de les amener à déconstruire certains préjugés qu'ils peuvent avoir, certains stéréotypes.
Alors vous parlez de se ghettoiser, est-ce que vous pensez qu'on a tendance à tendre vers ça en ce moment ?
Non, je pense pas. Je pense que chaque association, chaque collectif a, on va dire, ses missions. Et nous, à Diam, on est beaucoup aussi dans le pédagogique, dans l'éducatif. En tout cas, quand on parle à des jeunes ou à des hétéros, on essaye, hein, d'expliquer nos revendications, nos situations, nos discriminations. Donc c'est en ça où nous, on n'est pas dans quelque chose où on refuserait une mixité. C'est pas du tout notre démarche.
Vous parlez d'inclure donc les personnes hétéros qui ne font pas forcément partie de la communauté LGBT à ce genre d'événement. Est-ce que vous pensez que ça peut ouvrir l'esprit de certaines personnes qui peut-être sont homophobes, transphobes, ou est-ce que, comme vous le disiez, c'est peut-être une sorte de rassemblement entre gens qui sont déjà convaincus, en fait, des droits de ces personnes?
Je ne pense pas, je vous dis, dans la partie régionale, absolument pas. Il y a beaucoup de public hétéro qui est dans la salle. Et même au sein de Diam, dans notre équipe, il y a une partie qui est hétéro. Et quand un hétéro accompagne les luttes LGBT, on appelle ça un allié ou une alliée. Donc il ne faut pas oublier ce terme-là, c'est quand même important. Et je pense que, comme je l'ai dit moi-même, j'ai évolué dans ma réflexion, donc je ne vois pas pourquoi une personne hétéro ne pourrait pas évoluer dans la sienne de réflexion. Donc on touche à l'humain, l'humain est complexe et dans l'histoire, pour être enseignante d'histoire dans la vie, on est en constante évolution, donc pourquoi on ne le serait pas dans nos propres vies ?
Au-delà de l'hétérosexualité, moi je parlais vraiment de personnes très fermées d'esprit, allant jusqu'à l'homophobie, etc.
Oui.
Est-ce que vous pensez que ce genre de personnes peuvent être amenées à aller à ce genre de festival ?
Sincèrement, ce genre de personnes ne viendront pas à une projection d'un film LGBT. Et tant mieux, parce que là, par contre, je le dis clairement, on ne veut pas exposer notre public à de mauvaises réactions. Donc il n'est pas question qu'une personne avec de mauvaises intentions vienne perturber une projection qui est bienveillante et calme. Et après, quand on fait l'éducatif avec les jeunes, en général, ça se passe plutôt bien. Et faut juste arriver à amener le sujet... Et entendre certaines choses pour pouvoir rebondir dessus. En fait, on ne peut pas lutter contre l'homophobie si on ne la laisse pas s'exprimer un minimum. Et c'est à partir de là, en tout cas je parle pour la jeunesse, hein, pas pour les adultes, c'est à partir de là qu'on peut déconstruire. Donc il faut enclencher la discussion et après arriver à argumenter et à les faire douter de ce qu'ils pensent être des vérités éternelles qu'on ne peut pas discuter.
Alors justement, quel est le cœur de cible pour lequel il faut démocratiser ces questions de genre, de sexualité ? Est-ce qu'il s'agit que des jeunes ?
Étant enseignante, je dirais que l'éducation nationale a encore beaucoup de travail à faire devant elle sur ce sujet-là. Si on commence pas dès la jeunesse, c'est difficile, une fois qu'une personne est bien entrée dans sa vie adulte avec des certitudes, de l'amener à les déconstruire. Donc il vaut mieux le faire tant qu'on est dans une phase de sa vie où on se questionne et même, je pense, pour ma génération à moi qui a grandi dans un monde où on était complètement invisible, si on avait pu voir un peu plus de films, si on avait pu voir des profs qui abordaient un peu plus ce sujet-là, peut-être que pour certains d'entre nous, ça nous aurait fait gagner un paquet de temps sur nos vies, quoi. Donc il y a ça aussi à voir, c'est que ce n'est pas toujours parler d'homophobie, c'est aussi parler d'affirmation de soi et d'épanouissement de qui on est. Quand on parle à des jeunes, à des scolaires, il faut voir qu'au sein de notre public, on a aussi des jeunes qui sont en questionnement et on les aide quand on fait venir une discussion là-dessus, on leur fait gagner du temps sur leur vie.
On va sortir un tout petit peu du sujet du festival, mais vous dites que vous intervenez dans le scolaire auprès des jeunes autour de conférences, je suppose, d'interventions. Comment ça se passe ?
Oh, de manière un petit peu artisanale. Étant enseignante, je le fais dans mon établissement scolaire, qui est le lycée professionnel des métiers du bâtiment urbain Vitry, au quartier des Isards. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on a tout un projet sur les LGBT-phobies et sur l'épanouissement de soi. Et justement, par le biais du festival, on a une collaboration étroite où on peut utiliser des courts-métrages et parfois des longs-métrages. Et c'est par exemple comme ça que sur cette édition, on va avoir la projection du film Les Meilleurs avec Marion de Seigne-Ravel qui va venir et qui va échanger avec les classes. Et donc il y aura le lycée Urbain Vitry, il y aura aussi le lycée Guy Nemer qui va venir avec deux classes et il y aura un collège dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui n'est pas sur Toulouse, qui est à la périphérie, qui va venir aussi avec des classes de 4e. Donc, à notre petite échelle, on n'a pas encore la capacité de faire quelque chose, des interventions plus massives, puisqu'on est tous bénévoles dans l'équipe. Mais on essaye de sensibiliser des collègues, des enseignants, et qu'ensuite, ils puissent aussi après travailler dans leur classe.
Alors, pour revenir au cinéma, à la culture, oui. La semaine dernière, je recevais Violette Cordaro, une présidente d'association LGBT, NoSig, pour parler du biopic sur Whitney Houston, qui est sorti le 21 décembre et qui met réellement en avant la bisexualité de la chanteuse. Et je lui demandais si, pour elle, le cinéma ne donnait pas une image un peu négative par moment de la communauté LGBT, avec beaucoup de clichés, souvent des connotations au sida. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à ça ?
Je ne serais pas tranchée comme ça, non. Alors déjà, en organisant moi-même un festival de cinéma LGBT, on a le regard interne. Donc si un film était trop stéréotypé, on ne le prendrait pas, tout simplement. Donc c'est ça aussi l'engagement du Festival Diam, c'est d'amener un regard qui soit intéressant, pertinent, et comme je l'ai dit, avec une forme de bienveillance. Même quand on parle de violence conjugale dans les couples lesbiens, c'est pas dans le jugement, mais c'est dans la compréhension, l'analyse, comment viennent ces violences, comment on les définit, comment on les stoppe. Donc c'est pas négatif sur les couples lesbiens, c'est pas ça qu'on est en train de transmettre comme sujet. Et après, en général, non, je trouve qu'il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sont de qualité, qu'on peut retrouver dans d'autres festivals. Je pense par exemple à Mi Bacio y Yo, qui a gagné le prix à Cine España en octobre dernier. Je pense à Camila Saldrá Esta Noche, qui a gagné un prix aussi au dernier Ciné Latino. Donc le cinéma LGBT est au contraire en bonne évolution. Après, oui, parfois, c'est vrai que dans le cinéma commercial, c'est pas tellement que l'image est négative, mais il y a des fois, il y a le personnage est soi-disant LGBT, mais en fait, ça n'apporte absolument rien à l'histoire. Et on a l'impression qu'il faut remplir une espèce de quota des minorités, en gros. Et voilà, donc on peut mettre un personnage qui va être lesbien, mais c'est sans intérêt pour l'histoire de la série ou du film, quoi.
Oui, alors j'allais vous demander comment vous définiriez le cinéma LGBT que vous mettez en avant dans votre festival, mais vous venez un peu de le faire, du coup.
Mais c'est une vaste question, parce que c'est une question qu'on se pose chaque année au sein de Diam. Pour certains films, on se demande à quel point ils sont ou pas LGBT. Voilà, parce qu'il ne suffit pas qu'il y ait un personnage LGBT pour que le film soit LGBT. Mais on ne peut pas, en fait, on ne peut pas d'entrée de jeu avoir une réponse claire. En fait, c'est vraiment après comment on le ressent et comment on en discute en interne qu'on va dire, bah non, ce film-là, finalement... c'est pas vraiment du cinéma LGBT intéressant pour nous, quoi.
Est-ce que la communauté LGBT et au-delà de ça, peut-être même le combat existe à travers ce genre d'événement, se démocratise?
Ouf, la question est complexe. Alors, est-ce que se démocratise et existe? Oui. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que en faisant un festival de qualité, on intéresse plus et on va nous solliciter plus. Et par exemple, je me rappelle, il y a un an, l'association Cinéphilae nous a demandé d'intervenir pour sensibiliser les enseignants qui participent à un projet qui est lycéen apprenti cinéma. Et donc on y a été. Ensuite, il y a le Festival Ciné Latino qui nous a demandé d'intervenir pour sensibiliser ses bénévoles justement aux thématiques LGBT et au vocabulaire, la précision des mots, ne pas mettre des mots pour à la place d'un autre. Donc ça, c'est intéressant de voir que bah, des associations qui ne sont pas LGBT, du coup, nous sollicitent pour avec l'entrée cinéma, et puis on arrive à parler finalement de thématiques LGBT. Après, il n'y a pas que Diam, hein, y a d'autres associations. Heureusement, Toulouse est riche dans ce domaine-là. Et après, le combat n'est jamais terminé, et l'actualité récente le prouve avec... les tracts d'extrême droite qui ont été distribués le week-end dernier sur Toulouse visant une action de lecture jeunesse qui devait avoir lieu le 18 février à la médiathèque Cabanis par deux drag queens toulousaines très connues qui sont Brandy Snap et Shana Banana. Et la réponse quelques jours après, c'était mardi dernier, du maire de Toulouse qui a certes demandé la dissolution de ce groupuscule d'extrême droite qui avait signé les tracts, mais qui aussi a requalifié le public qui était visé, puisque c'était des lectures de jeunesse, et qu'il a donné comme consigne qu'il n'y aurait qu'un public adulte pour assister à cette action. Donc ça veut dire que quelque part, en tranchant ainsi, il donne foi à ce qui était écrit dans le tract, qui signifiait de la propagande, etc., et qui était très nauséabond sur la communauté LGBT. Donc ça montre pleinement comment, à l'heure actuelle, à tout moment, en fait, les droits LGBT peuvent être à nouveau bafoués, reculés, et discriminés. Et ça me fait rebondir aussi sur une autre actualité, toujours pareil, des tracts qui ont été distribués à plusieurs reprises à Albi, d'extrême droite aussi. Donc les combats LGBT sont des combats extrêmement politiques, en fait, et très clivants entre... droite, gauche, extrême droite, etc. Donc il faut être très vigilant là-dessus, puisque c'est comme pour les droits des femmes, en fait, il suffit de pas grand-chose pour revenir en arrière.
Un combat semé d'embûches, donc. Merci Anne-Catherine Mesure pour cette interview. Nous allons maintenant passer au versant féministe de l'actualité avec le dernier rapport sur le sexisme en France.
Ben merci à vous.
Merci. Le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes vient de publier ce lundi 23 janvier son cinquième rapport sur le sexisme en France. Et selon les chiffres, ce dernier stagnerait grâce aux mesures du baromètre sexisme. Du côté des Françaises, plus de 3 sur 10 d'entre elles auraient déjà subi un rapport sexuel non consenti. Par ailleurs, 4 femmes sur 10 ayant entre 15 et 25 ans déclarent avoir déjà subi du sexisme dans un milieu scolaire ou professionnel. On parle là de remarques inappropriées sur la tenue, de dénigrement ou encore d'inégalité salariale. Et du côté des hommes, presque un quart de ceux âgés de 25 à 34 ans estiment que la violence est parfois nécessaire pour imposer le respect. Presque 2 sur 10 d'entre eux pensent qu'une femme agressée est en partie responsable. Autre marqueur important, la défiance des Français pour les compétences de la justice en matière de lutte contre le sexisme. Seulement 3 Français sur 10 estiment que la justice fait son maximum pour cette lutte. Cette émission touche à sa fin, c'en est tout pour l'actualité LGBT et féministe aujourd'hui. Nous nous sommes intéressés au festival local LGBT des images homo et à l'évolution ou pas du sexisme en France. Je remercie Anne-Catherine Mesure, présidente du DIF Festival, d'avoir été notre invitée. C'était les Minutes des Fiertés sur Esprit Occitanie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.